Christine Saint-Thomas, bonjour. La métamorphose du moineau, livre 1, Le Petit Prince mal-né, que vous publiez aux éditions Encre Rouge. C'est pas votre premier livre, vous avez déjà publié dans divers registres, mais c'est un registre très différent cette fois, j'ai l'impression.
Absolument, oui. Ça se situe dans le registre de l'héroïque fantasy, un milieu médiéval avec des fées, des mages, des rois, des princesses. Un univers plus, je dirais, plus fantasmagorique que ce que j'ai l'habitude d'écrire.
Alors, d'où est venue cette idée ?
Oh, alors, c'est l'éternelle question, je ne sais pas. C'est une idée qui s'impose, qui mûrit lentement. Et puis, à un moment, il faut que je le pose sur le papier.
Parce que pour créer cet univers, c'est pas simple. J'avais l'impression d'être dans Tolkien, oui. dans cet univers-là.
Alors, au risque de vous choquer, je vous dirais que je ne suis pas arrivée à lire Tolkien. Donc, je n'ai pas subi son influence. C'est vraiment un univers complètement inventé, rêvé, créé.
Qui sont les Hellénides ?
Les Hellénides, c'est un peuple ailé, donc qui est très proche de la nature. J'ai fait un peu le parallèle avec les Indiens d'Amérique du Nord pour leur relation avec la mère nature. Pour eux, c'est leur seule religion. Ils respectent la nature et... ils sont très fidèles à leurs principes, de ne pas trahir cette nature qui les nourrit et au milieu de laquelle ils vivent.
Oui, mais quand même, c'est violent.
Ah oui, oui. Il faut savoir quand même que le côté médiéval, si on se rapproche de notre histoire, il n'est pas spécialement délicat. Et moi, je vis beaucoup dans des univers violents. C'est un peu ma façon d'exorciser les sombres côtés de ma personnalité, sans tomber dans la paranoïa ou la schizophrénie.
Christine Saint-Thomas, vous allez présenter plus exactement, peut-être le principal héros de ce livre, Shen Caro, ouais. Qui est un jeune guerrier hellénide. Mm-hmm. Alors, qui est-il ?
Alors, Shen Caro, il a été conçu par la violence. Son père, qui est un guerrier hellénide assez puissant, mais est un renégat qui a malheureusement des travers et qui est très attiré par les jeunes filles. Et malheureusement pour elle, il rencontre une jeune princesse, une adolescente, qu'il va molester. Et donc, de cette agression va naître le petit Shen Caro. Qui donc, comme tous les membres de sa confrérie, naissent avec des ailes. Un rapport avec un hellénide conduit forcément à mettre au monde un enfant avec des ailes. Et cette jeune princesse, n'arrive pas à assumer cette maternité, abandonne l'enfant, n'en parle à personne, son père, le roi, ne sait pas qu'elle a accouché, et surtout il ne sait pas, après lorsqu'il est informé des circonstances, il ne sait pas ce qu'est devenu cet enfant. La reine, enfin la princesse elle-même, pense que le mage Goric qui l'a aidé à accoucher a tué son enfant puisqu'elle a refusé de l'élever.
Mais cet enfant grandit, voilà. Il devient adolescent et puis il décide de retrouver sa
Tout
mère.
Tout à fait, parce qu'il il a été rejeté. Ses parents adoptifs ne lui ont jamais caché ses origines. Donc d'un côté, il sait qui est son père, mais de l'autre, il ignore tout de sa mère. Et donc, il commet l'irréparable pour un hellénide, c'est-à-dire qu'il s'ampute de ses ailes. En pensant que peut-être s'il n'a plus d'elle, sa mère l'acceptera. Et il part donc à sa recherche sans avoir très peu d'éléments, juste le nom de Goric, le mage qu'il a mis au monde.
Le symbole justement de couper les ailes, il est fort parce qu'il, d'ailleurs à un moment, il se situe plus comme un humain, comme un hellénide.
Oui, mais pour lui, ce côté hellénide, ça le ramène à son père, qui est un renégat, qui est un homme malfaisant. Et il comprend que sa mère n'ait pas pu le garder, mais en même temps, il espère qu'avec le temps, elle va l'accepter. Et même s'il aime beaucoup sa mère adoptive, quelque part, il n'y a rien à faire. Il y a les liens avec la mère qui donne la vie.
Alors bien évidemment, la rencontre, retrouver sa mère, ça va être un moment difficile.
Oui.
Pour l'un comme pour l'autre, d'ailleurs.
Alors, Moi, au départ, je n'avais pas l'intention de publier sur 2 tomes et c'est mon éditeur qui a insisté en me disant que ça faisait un trop gros volume. Alors, bon, je ne suis pas toujours d'accord avec ça. Je sais qu'il y a des lecteurs qui aiment beaucoup les gros pavés. Moi, j'en fais partie. J'aime bien les livres quand ils sont bien. J'ai pas envie de les quitter. Donc, j'ai donc séparé ce roman en 2 volumes et c'est dans le tome 2 que Shankaro va retrouver sa mère au départ sans le savoir, puisqu'il va se diriger vers le château de Sérénité. Il sauve la princesse d'une embuscade et donc il est reçu au château comme un sauveur, comme un héros. C'est après beaucoup d'épreuves qu'il va réaliser qui est sa mère. Mais ça, c'est à la fin de l'histoire.
Alors dans ce premier tome, donc on va rester sur ce premier tome, livre 1, la métamorphose du moineau, c'est en fait évidemment ce symbole des ailes et ce symbole de couper les ailes pour devenir un humain. Mais c'est une forme de quête à la fois mystique, c'est une quête de croyance, c'est quoi ?
C'est une quête de reconnaissance en fait, pas mystique parce que au début du livre j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de religion en tant que telle dans cet univers. Cette reconnaissance pour lui c'est plus au niveau de ses racines. J'insiste beaucoup sur le fait qu'on ne doit pas avoir honte de ses racines. On n'est pas obligé d'en accepter les dérives. Pour ce jeune homme, il a envie de se retrouver entièrement, de découvrir qui est sa mère, sa famille en fait, parce que lui il n'a qu'une famille adoptive, même s'il est intégré, même s'il les aime beaucoup, il veut connaître cette part mystérieuse dont personne ne veut lui parler, et pour cause, hein, parce que si on apprenait que la reine avait eu un bâtard avec un renégat Elimide, ça ferait désordre.
Tout à l'heure, vous évoquiez les Indiens, les Amérindiens d'Amérique, et j'ai lu une phrase quelque part, « Un monde sans croyance est-il un monde sans principe ?» Les Indiens, ils avaient les deux, les croyances multiples et puis les principes aussi.
Oui, mais justement, là, c'est ce peuple qui s'est créé une religion sur les bases de ce sorcier qui les a sauvés d'un cataclysme. J'ai fait un petit peu référence à la vision de Jésus, mais je voulais pas ancrer mes personnages dans une religion très profonde, très forte, très mystique, parce que c'était pas le but du sujet en fait. Je voulais pas qu'ils se perdent dans les méandres de ces religions, et je l'évoque pas vraiment. Et ces Hellénites, pour eux, ce n'est pas une vraie religion, c'est plus une communion avec la nature.
Comme les Indiens.
Tout à fait.
Alors, est-ce que, de la part de Shankaro, c'est à la fois une quête de reconnaissance, de retrouvailles avec ses racines, ou est-ce que c'est une forme de fuite également ?
Un peu les deux, parce que il ignore pas que son père s'est imposé et que bon, il est quand même, disons-le, le fruit d'un viol, donc forcément c'est pas facile à porter pour un enfant, un adolescent, et en plus il ressemble trait pour trait à son père, donc c'est compliqué. D'un côté il a vraiment envie de retrouver sa mère, mais de l'autre c'est compliqué de lui imposer la vision de son père, quoi. Donc c'est vrai qu'il est un peu tiraillé entre les deux, mais la pression qui le pousse en avant est plus importante que celle qui le tire en arrière.
Quelques mots sur justement sa mère et quelques mots sur son père. Qui sont-ils ?
Alors, sa mère, donc, c'est la fille du roi qui règne à ce moment-là, donc, et qui est une jeune fille, une adolescente qui a des pouvoirs magiques, mais dont elle n'a pas envie de se servir. Puisque ces pouvoirs dont sa mère était détentrice, elle prend des cours avec un professeur de magie, on va dire, en quelque sorte, mais elle lui fait des tours pendables, elle transforme son chat en animaux bizarres, lui, elle le transforme en araignée, donc elle fait des blagues, en même temps, elle est rebelle, elle ne veut pas aller en cours, elle préfère aller courir dans la campagne, et c'est à cause de ça, que, justement parce qu'elle désobéit, qu'elle ne respecte pas les consignes, et puis son rang, quelque part, c'est une princesse, elle est amenée à régner, donc elle devrait suivre les précepteurs et les dames et tout ce qui fait l'éducation d'une future reine. Mais elle n'a pas envie, pour l'instant, elle a envie de vivre avec les petits paysans du coin et d'aller se promener dans les bois, et c'est comme ça, malheureusement, donc qu'elle rencontre Chagan, ce renégat hellénique qui a été chassé de son village parce que justement il avait des penchants inavouables. Donc les Hellénides ne pratiquent pas la peine de mort, mais ils le chassent. Chagan, pour vivre, il continue sa triste vie de renégat et en faisant le mal autour de lui. Et en particulier, donc, il faut savoir que chaque union avec un hellénide conduit forcément à une naissance. Il n'y a pas d'échappatoire. Donc, Chagan, il sait qu'il a d'autres enfants quelque part dans le territoire qu'il va rencontrer d'ailleurs. Et Shenkaru aussi, il va rencontrer une sœur. Je voulais étoffer un peu ce personnage au fil du temps, qui est quand même, bien qu'à la fin du tome 2, il connaisse la vérité, il est quelque part assombri par ce secret, la façon dont il est né. Ça fait de lui un homme... assez taciturne, qui est renfermé, parce qu'il est envahi par les crimes de son père, en fait.
Et Vela, c'est Velaya, Velaya, hein, cette traîne. Elle ne peut pas oublier, bien évidemment, cet événement.
Elle ne l'oublie pas, d'ailleurs, pendant plusieurs années. Elle va très mal, elle se laisse dépérir. Son père ne sait plus quoi faire, il propose même de la marier en espérant que les choses vont s'arranger. Et il n'a pas besoin de le faire puisqu'elle rencontre un des guerriers qui sillonne le territoire pour sa protection. Et elle va en tomber amoureuse et c'est lui qui va lui permettre de remonter la pente, de refaire surface et d'avoir un petit garçon qui fait qu'elle va porter sur cet enfant... tous ses rêves, tous ses espoirs, tout ce qu'elle n'a pas pu donner à Shenkaru, elle va le donner à ce petit garçon qu'elle aime de tout son cœur.
Il y a une foison de personnages, à la fois mi-humains, mi-fées, mi-dragons, tout ce qu'on veut. Comment vous avez inventé ces personnages ?
Je dirais que ça vient un peu tout seul. Enfin, lorsque je me mets sur...
Vous les croisez en écrivant,
en fait. Oui, c'est ça. Au fur et à mesure, je peaufine mes personnages. Bon, il faut savoir que je n'écris pas un livre. C'est assez rare. Quelques histoires que je suis arrivée à écrire vite, mais la plupart du temps, c'est un travail de longue haleine. Et je reviens dessus. En plus, je suis perfectionniste. Alors, avant que ça me plaise, il y a eu un certain nombre de moutures quand même.
Christine Saint-Thomas, donc, je rappelle le titre de ce livre, La métamorphose du moineau, livre 1. Alors, c'est pas tome 1, livre 1, et ça a son importance. Le Petit Prince Mal-Né, c'est publié aux éditions Encre Rouge. Merci à vous pour nous avoir emmenés dans cet univers... si particulier, qui est l'univers de la fantaisie et du fantastique. Mmh. Voilà, un monde finalement qui est malheureusement, qu'on peut mettre peut-être quelque part en parallèle avec
le nôtre, hélas. Oui, puis bien écoutez, j'espère que les lecteurs apprécieront cet univers et ces personnages, et surtout qu'ils me feront savoir, parce que c'est important d'avoir des retours des lecteurs.